Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous quand il sonne 11h de lundi à vendredi pour cette émission Club de la Presse. 12 partis politiques de l'opposition et organisations de la société civile se regroupent pour mener des actions contre la nouvelle constitution. Il s'agit de ADI, Alcades, ADMI, CAR, CDPI, ADSA, Flambeau du Peuple, Galassi, Gamessou, La Racine, LDP et MJS. En conférence de presse hier, jeudi, au siège de la CDPA, le Nouveau Front a signé une déclaration conjointe afin de lutter contre ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel en cours au Togo. Dans une déclaration liminaire lue au cours de cette rencontre, le nouveau regroupement a dénoncé la procédure utilisée pour l'adoption de cette nouvelle constitution avant de rejeter ce que les signataires appellent le coup de force constitutionnel. Que pensez-vous de ce nouveau regroupement et pour quels résultats? J'aborderai le sujet avec mes confrères journalistes en studio avec moi et aussi bien sûr des invités. Et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 21 mars 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde, Jiro Dakuta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous écoutez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul, nous sommes à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Vous le savez très bien, vous nous suivez aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays et c'est avec mes confrères journalistes et aussi des invités, bien sûr. Confrères journalistes, Fermé Tekou Agbo, bonjour.
Bonjour Pascal Ossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Ouais, on va bien, par la grâce de Dieu.
D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est tout un honneur.
Gabé Nzaro, bonjour.
Bonjour Pascal, et merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste et vous êtes également analyste politique. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Kofi Annani, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez aussi bien.
La grâce de Dieu nous tient toujours.
Justement, la grâce de Dieu nous tient toujours. Vous êtes aussi analyste politique et vous venez toujours dans cette émission où nous vous invitons pour débattre de l'actualité et l'actualité, vous donner votre point de vue. Et déjà, vous le savez très bien qu'à partir de midi, nous donnons aussi la parole à nos auditeurs. C'est le principe de l'émission pour qu'ils s'expriment aussi sur des sujets débattus ici au Club de la Presse, des sujets de l'actualité bien sûr. Et à partir de midi, nous allons leur donner la parole sur nos deux numéros 90 86 35 35 et 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Nous avons un invité, c'est bien monsieur Afantsao Komi Oboubé. Monsieur Afantsao, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Ça va.
Vous êtes journaliste et aussi écrivain puisque j'ai un document, enfin un livre entre mes mains. Et cet ouvrage, c'est vous qui l'avez écrit. Et cet ouvrage vient de paraître, bien sûr, dans le paysage littéraire. Et vous vous intéressez à Monseigneur Barriga. Le titre de l'ouvrage, c'est bien Monseigneur Barriga, un évêque incroyable aux anecdotes incroyables. Et avec la photo, bien sûr, de Monseigneur Nicodème Barriga. Et vous écrivez aussi recueil de quelques anecdotes de Monseigneur Nicodème Barriga bénissant. Alors, qu'est-ce qui vous a d'abord poussé à écrire un ouvrage sur Monseigneur Barriga?
Bon, en fait, ce n'est pas un ouvrage sur sa personne en tant que telle. Moi, j'avais juste eu l'idée de rassembler ces anecdotes qu'il avait l'habitude de raconter lors de ses prêches, de ses enseignements. C'était en janvier 2022, précisément le 7, que l'idée m'est venue. Une nuit comme ça, j'écoutais un de ses enseignements de pourquoi ne pas sauvegarder ces récits-là que j'aimais tant. Puisque on dit souvent dans nos sociétés que les paroles s'envolent, les écrits restent, je me suis dit, sauvegarder ces récits dans un livre pourrait aider beaucoup de personnes, même après son départ, et ce livre sera toujours là, les gens pourront le consulter, le lire. Donc c'est comme ça l'idée m'est venue en janvier 2022, et j'ai commencé par rassembler ces homélies, ces prêches que j'avais. Et je collectais un peu partout, Radio Maria, sur Internet, sur les pages Facebook. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par travailler sur le projet. Entre-temps, j'avais abandonné parce que je ne voyais plus d'intérêt à poursuivre ça. Après, j'ai repris, j'ai abandonné encore. C'est à la suite de son décès, le jeudi qui a suivi le décès, que je me suis dit, il faut que je reprenne ce truc. Et j'ai contacté un ami prêtre qui a Sokolé. Et c'est lui qui m'a encouragé à le faire et j'ai commencé, j'ai repris. À l'époque, j'avais déjà une soixantaine d'anecdotes de Monseigneur. Donc, j'ai continué le travail comme ça. Et ça a donné ce que vous avez devant vous.
Tout à fait, c'est un projet qui a donné cet ouvrage-là que nous avons entre les mains. Alors, c'est quoi la particularité des anecdotes alors de Monseigneur Barriga?
D'abord, quand il se met sur le pupitre et il dit, chers frères et sœurs, quand moi je l'écoute, je sais que j'aurai une nouvelle histoire de sa part. Donc, ces anecdotes, il raconte ce qu'il a lu lui-même quelque part, ou bien ce que quelqu'un lui a raconté. Et aussi, des choses sur sa propre vie, son expérience à travers ses missions au Rwanda, au Salvador, en Israël, en Côte d'Ivoire et au Togo. Donc, je me suis dit, sont des choses qui m'intéressaient personnellement. Il y en a qui font rire, il y en a qui donnent des leçons, il y en a qui font réfléchir, qui font méditer. Donc, ce sont des choses que moi, j'aimais particulièrement. Donc, je me suis dit, arrivé un mois, je me suis dit, même si je ne les publiais pas, au moins, j'allais les garder pour moi-même. Donc, c'est ça qui m'a amené à le faire.
Et est-ce qu'on peut comprendre que c'est des anecdotes aussi pleines d'enseignements et il y a beaucoup de choses à apprendre dedans?
Bien sûr, il y a beaucoup de choses à apprendre dedans. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est une histoire au niveau de la CVJR, une dame. Et je ne sais plus le titre. Ça dit, à la fin de l'histoire, il disait que la dame, malgré tout, a voulu garder sa dignité contre l'argent. Parce que son fils et son mari étaient tués. Donc, pour les indemnisations, elle avait refusé de prendre de l'argent et de garder sa dignité. Donc, il y a cette histoire-là. Il y a plein d'histoires. Et ce qui l'a amené lui-même à devenir prêtre. Et c'est un peu amusant. Il dit qu'il craignait les fétiches. Parce qu'au cours primaire, et il y avait un petit qui était décédé et les rumeurs couraient que on l'a vendu au fétiche, tout ça là. Donc il se disait, bon, si à l'école on peut faire du mal, il préfère aller au petit séminaire. Au moins là, il n'y aurait pas ces histoires là. Donc c'est comme ça, il s'est lancé dans cette affaire. Il y a plein d'histoires qui révèlent beaucoup de choses sur la société. Vous prenez une histoire comme Rendez-moi mes 100 000. Vous prenez, il y a même des histoires qui concernent un peu la communication au sein du couple. Le titre, c'est Je l'ai enfin trouvé, qui concerne une dame et son mari qui se sont querellés. Et voilà, la femme a refusé de parler à son mari durant des jours. Le mari, par une stratégie, a amené sa femme à lui sourire de nouveau. Donc voilà des histoires comme ça qui m'ont marqué personnellement.
D'accord. Et voilà des histoires justement qui vous ont marqué. Vous voulez même d'ailleurs rendre public cela. Et c'est ce que nous avons entre nos mains ici, sous le titre Monseigneur Bariga, un évêque incroyable aux anecdotes incroyables, et recueil de quelques anecdotes de Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant. Maintenant, oui, c'est fait. Comment ça se fera, et la publication?
Bon, et nous avons rendu
la diffusion, j'allais dire, voilà, on a l'ouvrage.
D'accord. On a commencé d'abord sur les réseaux sociaux. Bon, on a publié les pages du livre pour que les gens aient connaissance de l'apparition de ce livre. Le livre est déjà disponible sur beaucoup de paroisses à Lomé et dans le diocèse d'Aného à Radio Maria. Radio Maria, nous avons déjà commencé des communiqués là-bas. Et voilà un peu les endroits où les livres sont déjà disponibles. Et voilà.
Et pour vous, que représentait Monseigneur Bariga? C'est vrai, au-delà même d'ailleurs des anecdotes et tout. Et la personne, quand on parle de la personnalité alors de Monseigneur Bariga, et c'est quoi vous retenez de la personne?
Je retiens de Monseigneur Bariga un grand homme d'église et un grand citoyen togolais, pour ne pas dire africain. Parce que au-delà de nos frontières togolaises, et c'est quelqu'un qui est connu un peu dans le monde. Je prends juste l'exemple d'un prêtre congolais, un jésuite, qui m'avait écrit l'autre fois pour me demander comment il peut se procurer le livre. Et dans nos échanges, il me faisait savoir que c'est quelqu'un qu'il n'a pas connu personnellement, sauf qu'il a une fois écouté un de ses enseignements qui l'a marqué. Donc pour dire que c'est quelqu'un qui n'est pas seulement togolais, mais qui est mondialement connu. Lors de ses obsèques à Lomé, l'archevêque de Kinshasa, le président du CHEAM, qui déclarait que Monseigneur Bariga, il faisait savoir aux gens combien de fois l'Église universelle fondait ses espoirs sur cet homme. Donc voilà un peu si, au-delà de nos frontières, il est connu, des témoignages comme ça viennent le prouver. Et moi, je me sens très petit pour parler d'abord de la personne de Monseigneur Bariga, puisque c'est quelqu'un que moi je n'ai jamais côtoyé, en dehors de l'avoir interviewé une ou deux fois en passant, je ne l'ai jamais serré la main. Mon rêve était de lui présenter ce projet-là de son vivant. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire avant son départ.
Mais ce qui est sûr, nous l'avons, et là, ça nous permet également de connaître plus Monseigneur Bariga. Afan Tsaro, Kombio Boubé, merci d'être passé alors dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Si vous avez un mot de la fin.
Bon, d'abord remercier Canal FM pour m'avoir donné cette occasion de parler, de présenter ce livre au grand public togolais. Aussi, inviter les Togolais à se procurer le livre. Pourquoi? Ce n'est pas... En voulant acheter le livre, j'invite les gens à ne pas voir à la personne de Monseigneur Bariga un catholique, un évêque. Parce que lorsque vous voyez cette image de la personne, vous n'allez pas vouloir acheter le livre. Mais il faut voir dans sa personne un Togolais, un citoyen togolais, à travers sa contribution au niveau de la CVJR, non seulement la CVJR, et vous n'êtes pas sans savoir le rôle qu'il a eu à jouer lors des dernières élections, le rôle de médiation pour que, voilà. Donc, je pense que acheter ce livre aujourd'hui, ce n'est pas acheter un livre de catholique, mais c'est acheter un livre pour immortaliser une personne qui, dans une période donnée de l'histoire du Togo, a eu à marquer notre histoire à travers son apport. Comme il le dit toujours, fait sa part. Je pense que celui qui achète ce livre, quelque part, il est en train de faire aussi sa part dans l'édification du Togo.
Et c'est à quel prix le livre?
Le livre est à 3 000 francs CFA.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup à Afan Tsaro, Kombi Oboubé, d'être passé alors chez nous. Merci. Et félicitations à vous par rapport à ce projet qui a pris corps à travers cet ouvrage intitulé Monseigneur Bariga, un évêque incroyable aux anecdotes incroyables. Recueil de quelques anecdotes de Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant. Vous pouvez rester avec nous pour nous suivre alors dans nos débats, puisque c'est ce que nous faisons au Club de la Presse avec, bien sûr, mes invités. Alors, chers confrères, nous commençons cette émission avec ce sujet que le journal L'Union nous donne, le journal qui écrit « Société, la nuisance sonore est un fléau qui perdure malgré les interdictions ». Et Gabin, Non, quand on parle alors de nuisances sonores, c'est vrai, il y a des gens quand même qui décriaient ces situations à travers même d'ailleurs un certain nombre alors de dispositifs, hein, c'est-à-dire quand on prend les bars, on prend des églises, on prend les mosquées, et il y a des gens qui dénonçaient cette nuisance sonore à travers, qui provenait surtout alors de ces dispositifs. Et finalement, le journal qui nous annonce que ça perdure malgré son interdiction.
Oui, ça perdure malgré son interdiction, tout simplement parce que les différentes communes, c'est-à-dire les mairies, n'ont pas véritablement les moyens nécessaires pour pouvoir contrecarrer cela. C'est vrai que les décisions sortent à chaque moment. Les maires interviennent de manière sporadique, mais ils n'arrivent pas véritablement à contrecarrer cette histoire-là parce que véritablement, entre-temps, dans la commune du Golfe 5, le maire Abouka même avait fait interpeller certains tenanciers de bar pour leur parler. Mais bizarrement, cette affaire-là, ça continue toujours. Et pas que dans le Golfe 5, pratiquement dans toute Lomé, on constate ce genre de choses-là. C'est comme si les gens n'arrive pas. C'est vrai qu'il y avait un accent particulier qui avait été mis sur les églises, mais les églises, pratiquement, ils ont arrêté ça. Ils ont arrêté, ils respectent maintenant les normes, mais bizarrement, ce sont les bars qui continuent par polluer quand même l'atmosphère. C'est assez difficile d'arriver à comprendre ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'à un moment, certains rentrent à la maison, tu rentres à la maison fatigué, 18h, et bizarrement, nos bars, c'est pratiquement parmi les concessions, hein, entre les concessions, si je veux dire. Par exemple, quand tu prends le Carrefour Limousine, ben les bars qui sont là-bas, les maisons sont juste à côté. Et à Goué, un peu partout, les maisons sont à côté des bars. Et bizarrement, ces bars-là jouent de la musique à tue-tête. Et ça, c'est véritablement très compliqué. Même les parents d'enfants, les enfants eux-mêmes, les parents qui viennent d'avoir des nouveaux-nés, c'est tellement compliqué d'arriver à faire dormir son bébé qui subit cela. Donc, je pense que en dehors de la limitation ou bien du manque de moyens, on peut en appeler quand même à la conscience des tenanciers de bar qu'il y a un certain nombre qu'il faut respecter les décibels, il faut véritablement respecter les limites pour permettre à la population, ceux-là qui reviennent à la maison après une journée de travail, de pouvoir se reposer et se réveiller demain pour aller vaquer à leurs occupations. Donc pour le moment, en attendant l'instauration, bien l'institution de la police municipale, je pense que nous devons être assez conscients, les tenanciers de bar doivent être assez conscients pour ne pas polluer l'atmosphère, ne pas aussi compliquer la tâche aux mairies, puisqu'il en avait déjà. Parce que le maire Abouka, je l'évoque toujours, parce que lui, il intervient de manière instantanée quand tu l'appelles. Donc, bizarrement, les gens ont eu à promettre même de ne plus jouer de la musique de la sorte, mais bizarrement, quand on leur a rétrocédé leur matériel, ils ne continuent pas à faire la même chose. C'est assez déplorable.
Kofi, oui, quand on prend cette situation, c'est une situation que les uns et les autres décrivent, parce qu'on se dit, mais ça n'apporte pas la tranquillité. Mais au-delà de la sensibilisation, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il y a une loi même d'ailleurs qui interdit cela, il faut appliquer la loi?
Pascal, le problème que nous avons dans ce pays, c'est que nous sommes très bien dans l'emplacement ou la création de lois qui sont capables de faire en sorte que nous puissions vivre ensemble dans de bonnes conditions. Mais le problème reste de donner à ceux-là qui sont censés appliquer la loi les moyens juridiques nécessaires pouvant leur permettre de faire ce qui est de droit. Est-ce que nous nous donnons suffisamment de moyens pour faire en sorte que, si on dit par exemple qu'à telle heure il ne faut pas faire ceci, nous pouvons nous assurer que des citoyens ne se donneront pas la liberté de faire cette chose-là qu'on leur a interdit de ne pas faire. L'interdiction, c'est bon, mais avoir les moyens de pouvoir appliquer la loi, avoir les moyens de pouvoir sévir, c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse dans ce pays. Nous avons parlé de la sensibilisation à plusieurs reprises, mais il faut aussi appeler à la conscience du Togolais. Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup de gens vivent de telle façon à donner l'impression à l'autre qu'ils pensent qu'ils sont seuls dans le monde. Notre liberté devrait s'arrêter là où commence celle de l'autre. si nous vivons d'une manière à montrer à l'autre que bon, voilà, on peut faire ce qu'on veut, ça risque de nous faire mal. Mal à nos niveaux respectifs, mal au niveau national, et ça risque de nous coûter vraiment un jour. L'autre fois, j'essayais de dire quelque chose avant la fin de l'émission. Vous voyez quelqu'un qui se permet de bloquer la ruelle ou bien la voie publique parce qu'il est en train d'organiser une fête ou quelque chose comme ça. S'il a été autorisé par quiconque ou par une autorité, on ne sait pas.
Des fois c'est au niveau de la mairie qu'on reçoit surtout alors de l'autorisation pour faire des manifestations.
Mais des fois, il n'y a pas d'autorisation. Des fois, un citoyen lambda se permet juste de bloquer la voie pour organiser ce qu'il veut. Quelqu'un se permet de mettre, un haut-parleur quelque part, de jouer de la musique à tue-tête, dérangeant les gens parce que, bon, voilà, il connaît une autorité quelque part. Quand on veut parler, il va montrer ses muscles. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme cela. Nous devons comprendre que nous sommes tous appelés à vivre ensemble comme des citoyens d'une même nation. Ce pays nous appartient, nous tous. Si je suis Togolais, je ne suis pas plus Togolais que l'autre. Si le monsieur d'Anero se dit Togolais, il n'est pas plus Togolais que celui de Kara. Nous sommes tous citoyens d'une même nation. Nous devons vivre de manière à respecter les droits des uns et des autres. C'est le premier aspect. Nous devons comprendre que notre vie, vivre dans un quartier, dans une concession, nous donne des devoirs. Quels devoirs ? Des devoirs de respecter la vie des autres qui sont dans le même voisinage que nous. Si nous arrivons à comprendre cela, je pense qu'on n'aura pas trop besoin de l'application stricte de la loi. Merci.
Il semble que la liberté, c'est le respect de la loi qu'on s'est donné.
Oui, bien évidemment. Vous savez, c'est comme vous abordez mon sujet. J'ai passé assez de temps à parler de ces choses à Kara. La semaine passée avec les étudiants de l'université de Kara. Moi, je comprends juste de façon très simple que ce qu'il nous faut, c'est beaucoup plus la sensibilisation. Vous savez, il y a les lois. On veut s'attarder sur les sanctions. C'est-à-dire, quand vous ne sensibilisez pas les gens n'ont pas connaissance véritable des lois qui les régissent, qui régissent leur pays. Vous allez les sanctionner demain, ils vont reprendre la même chose. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le bien fondé de ce que vous leur dites. Aujourd'hui, si par exemple, on se met à sanctionner tout le monde, tout cela qui dérange au niveau des églises, on ramasse des instruments de musique, au niveau des bars, des restaurants, on ramasse. Donc, on va faire ça et puis, ça va donner quoi fondamentalement? Est-ce que les gens vont être épris de ces valeurs citoyennes-là? Moi, je pense que la solution se résume à deux volets. Le premier volet, c'est la sensibilisation. Et le deuxième volet, c'est un plan d'urbanisation. Vous savez, c'est comme nos maisons en Afrique sont construites en désordre. Toi, si tu trouves un terrain, tu construis 3 étages, quelqu'un vient, trouve des clés, il aussi construit sa maison. Donc, il n'y a pas de plan, en fait. Et ce qui fait qu'on a toujours de ces problèmes-là, tu peux venir installer ton bar là où tu veux, parce qu'il n'y a aucun plan, en fait. Donc, si on tout d'abord, il faut sensibiliser sur les valeurs citoyennes. Montrez aux populations que voilà vos droits, voilà aussi vos devoirs. Vous savez, la nouvelle constitution que je tiens dans ma main, la 5e République, elle consacre 25 articles aux droits et devoirs du citoyen. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Donc, il faut qu'on sensibilise par rapport à ça. C'est montrer aux gens leurs devoirs, montrer aux gens leurs droits. S'ils arrivent à être sur les médias, dans les écoles, l'université, partout, dans les marchés, partout, il y a ça régulièrement. Ça klaxonne dans les rues, tout ça. Donc, je pense que finalement, avec le temps, vous savez, quand vous suivez un feuilleton régulièrement, il y a des feuilletons qu'on aime. Quand vous jouez ça une fois, deux fois, trois fois, quand un passage va ou quand un extrait va passer, vous allez vous rappeler un peu ce qui a été dit là. Et vous allez même vous rappeler les phrases. Parce qu'à force d'écouter, à force de voir, on garde certaines choses. C'est l'habitude humaine, c'est le comportement humain. Mais l'autre chose, il faut que, bon, je le dis toujours aux gouvernants, surtout aux gouvernants africains, aux gouvernements togolais, quel est le plan d'urbanisation qu'on a? Quel est le Togo qu'on veut avoir dans 25 ans? C'est-à-dire, quand vous voyez les Chinois, on a dit ici une fois, il y a des films chinois, des films américains qu'on projette maintenant. C'est-à-dire, ils sont dans 2050. Vous voyez comment les États-Unis seront construits dans 2050. Mais au Togo, mais là, qu'est-ce que vous essayez de nous présenter? Le Togo de 2050, est-ce qu'on l'a? Le Togo de 2030, est-ce qu'on l'a? Le Togo de 2060, il faut que Fon Yassine s'entoure de ces urbanistes, de ces spécialistes, de ces géologues, de tous ceux-là qui maîtrisent le fonctionnement d'un État, la construction d'un État, pour nous dire voilà ce que nous voulons vous présenter. Et puis, ça va susciter de l'ambition, de l'envie et de certain patriotisme en nous. Si on n'a pas ça là, on a ce qu'on a. Moi, je pense que tout le monde aura toujours le même problème, Pascal Rousseau.
D'accord. Nous sommes rejoints par Germain Pouli. Germain, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour à tous les confrères. débatteur. Et comme débatteur, il se présente.
Tout à fait. J'espère que vous allez bien.
Oui, grâce à Dieu, ça va. Grâce à Dieu, ça va.
Jamais nous sommes en train de parler d'un sujet intéressant.
Oui, j'ai suivi avec intérêt sur la pollution sonore.
Tout à fait.
Et les efforts de certains maires, il faut le dire. Gabin en parlait tout à l'heure. Mais il faut dire qu'en Afrique, on n'a pas cette culture-là. On se dit qu'on est libre d'écouter de la musique, qu'on est libre de prier ou de chanter ou de danser à tue-tête à n'importe quelle heure. On est libre d'organiser des fêtes de famille comme on veut, les funérailles et tout ça. Et donc on est souvent choqué quand les voisins se plaignent. Parfois on pense qu'ils nous envient, parfois on pense qui ne sont pas de bons voisins, tout simplement. Et on oublie que, comme le disait Firmin, il faut quand même, là où notre liberté, donc ça arrête comment celle de l'autre. Donc après, il faut de la sensibilisation. C'est parce qu'on a vu des voisins de certains bars, par exemple, avoir des soucis. Les tenanciers se disaient, mais ils sont jaloux du succès de leur bar et ils veulent les appauvrir alors qu'ils ont investi beaucoup d'argent, ils ont de la clientèle, c'est la musique qui attire justement les clients qui viennent boire et le voisin n'est pas content et il crée des histoires, il veut faire fermer le bar. Donc, en Occident, vous voyez que même, par exemple, fumer dans un espace public ici, ben, on est choqué quand on se dit que ben, les autres, la fumée dérange les autres. On se dit, mais on a le droit de fumer. Bon. Donc, mais ailleurs, c'est des lois assez strictes qui sont bien respectées. Vous allez dans des pays en Europe et partout, vous n'allez pas entendre des bruits comme ça. Si quelqu'un fait du bruit dans la rue, c'est qu'il a une autorisation express pour être dans un endroit assez précis, sur une durée aussi précise. Et donc, ça fait l'objet d'autorisation. C'est vrai qu'on peut voir par ailleurs des artistes faire des spectacles dans la rue et tout ça, mais ça reste des autorisations spéciales. On voit des caravanes, des activités commerciales qui sont menées parfois un peu tard avec... Donc on voit, et même les partis politiques, vous savez, dans ce pays pendant longtemps, certains ne comprenaient pas qu'on leur interdise de ne pas faire des activités politiques la nuit. Ils pensent qu'ils peuvent aller faire un sitting dans un carrefour du matin jusqu'au petit matin. Dit que les gens passent par là, vous avez vu, on est même arrivé à interdire certaines manifestations statiques à des endroits donc, dans cette ville. Mais ça reste beaucoup de sensibilisation. Je crois que si bien les députés, aujourd'hui les sénateurs qui sont là et qui font les lois, qui contrôlent l'action gouvernementale, surtout au niveau de l'élaboration des lois, il faut qu'il y ait de la sensibilisation. Bien, comme vous le faites aussi en ce moment avec les médias, il faut qu'il y ait de la sensibilisation et puis les organisations de la société civile. Mais je crois qu'avec aussi les sanctions, les gens vont se ranger parce qu'on dit que c'est la peur du gendarme qui nous rend sages, qui fait qu'on obéit aux règles, et je crois qu'il faut. Quand je parle de sanctions, je parle en termes de contraventions.
Merci, Germain. Oui, ce que je voudrais dire, l'autre phénomène, bien sûr, c'est la divagation des animaux en pleine capitale. C'est vrai que ça devient aussi un autre problème, disons la vérité. Vous imaginez, quand j'arrivais au service, à la radio, tout de suite je suis passé par l'université de Lomé. Vous savez ce que j'ai constaté? J'ai constaté des bœufs. J'ai vu des bœufs qui broutaient des zèbres à l'université de Lomé. Mais ça m'a choqué. Je me suis dit, mais on est où là?
Non, ça ne devait pas te choquer. Nous qui avions fait l'université, quand on l'appelait même la brousse, ben, on constatait cela. Il y a des bœufs qui venaient avec les... Excusez-moi, des peules hein, qui venaient faire brouter des herbes à leur bœufs, à leur bélier et autres là, dans cette université. Sauf que je ne sais plus si ça continue. Si tu ne m'informes pas, je ne saurais plus que ça continue dans un tel espace où c'est rénové, c'est beau maintenant, on ne peut plus se permettre un certain nombre de choses. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne les mesures. C'est toute une question de sensibilisation, de prise de conscience de la population. Et les médias jouent entre-temps un rôle assez formidable hein, sous le ministre Humbo, où il y a un canevas civilité qui a été défini. les médias faisaient leur travail, mais depuis l'arrivée de monsieur Aoumé Zounoua à la tête de la primature, bon, ça a disparu, on a supprimé cela. Donc ça aussi, ça agit sur la population, parce que quand tu constates très bien pendant la période où les médias faisaient ce travail là, où les séquences de civilité, de civisme passaient en boucle sur les médias, la presse écrit ça à chaque moment, ça éveillait un tant soit peu la conscience des populations, et les gens, à un moment donné, ils ne jetaient même plus les pots de banane un peu partout comme ça. Mais depuis que ça a disparu, puisque ce n'était pas véritablement très ancré dans nos habitudes, bon, par après, ça a disparu aussi. Le ministre Aoumé Zounou pensait que le Hongbo avait déjà fait le lot du travail, que les populations togolaises avaient déjà compris ça, mais ce n'était pas ancré dans nos habitudes. Donc, c'est une question de sensibilisation. Moi, je viens de Zanguera. Il faut voir dans les rues un peu partout, c'est les animaux qui sont censés être dans nos maisons comme gardiens même, hein. Les chiens, tu les vois errer de partout, les canards, les poules, un peu partout, même sur le goudron, tu roules, et si tu ne fais pas attention, tu vas écraser un animal domestique. Donc c'est tellement compliqué. On parle d'animal domestique, pas d'animal errant. Donc à un moment donné, je pense que la population doit prendre conscience, mais les mairies aussi doivent jouer un rôle de sensibilisation. Et le sommet de l'État doit jouer aussi un rôle en accompagnant les médias, la presse, les médias un peu partout, pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail de sensibilisation, parce qu'il n'y a pas un seul Togolais, quand le jour se lève, n'écoute pas une radio ou bien n'allume pas la télé ou encore ne lit pas la presse.
Merci Gabin. Oui Kofi, quand on voit des animaux qui déambulent, qui sont en pleine divagation dans la capitale, on doit se poser des questions, parce que on se dit avec même la décentralisation, les mairies ont ce rôle même d'ailleurs également d'assainissement.
Pascal, nous revenons à la même chose, nous revenons au manque d'application de nos lois. Et tant que nous allons rester là, nous aurons les mêmes problèmes. Et pire, je pense qu'il y a des textes qui régissent l'élevage des animaux. Il y a des textes qui assurent que bon, voilà, les animaux soient gardés là où ils devraient être gardés. Mais si nous refusons d'appliquer ces lois-là, si on ne nous sensibilise pas suffisamment, si nous refusons que l'on appelle à notre conscience, et qu'on se décide de faire ce qu'on veut, on va rester là. J'avais dit tout à l'heure qu'il faut appeler à la conscience du Togolais. Je me réjouis du rappel que vient de faire mon frère Gabin, de ce qu'avait fait l'ancien Premier ministre. Je pense qu'on doit retourner là. La sensibilisation accrue, tous les jours, parler au Togolais, lui faire comprendre que, bon voilà, tu es Togolais, tu vis dans un pays, mais tu n'es pas seul. Il y a des autres qui vivent avec toi. En vivant de façon harmonieuse, heureuse,
quand
il faut respecter leurs droits.
Quand nous parlons de la sensibilisation, oui, je suis d'accord, mais déjà, est-ce que celui qui a laissé ses animaux divaguer dans la rue, en pleine capitale, est-ce qu'il n'est pas conscient de ce que ce n'est pas bien de laisser les animaux le faire?
Pascal, l'aîné Germain parlait de quelque chose tout à l'heure. Concernant la nuisance sonore, il disait que bon voilà, lorsque vous allez appeler l'autorité pour venir rappeler à l'ordre un citoyen qui crée de la nuisance sonore, il se dit ben voilà, vous êtes jaloux de moi. Le citoyen qui laisse ses animaux se promener dans la rue peut-être comprendre et peut ne pas comprendre, mais dès que vous, n'étant pas de l'autorité, n'étant pas investi de l'autorité, vous tentez de l'interpeller, il vous dit, ben voilà, taisez-vous, vous n'avez pas d'animaux. Et laissez-moi faire ce que je veux. C'est ça le problème. Il y en a qui ont compris, mais qui décident de faire ce qu'ils veulent. Mais la plupart, je pense, à mon avis, n'ont pas compris. Ils ne savent pas que, bon voilà, lorsqu'on doit élever des animaux, on doit les garder dans un endroit à ne pas embêter l'autre. Nous devons repartir à la sensibilisation. Et au même moment, nous devons faire en sorte que ceux-là qui refusent de s'aligner à la loi soient punis.
Et Firmin, à un moment donné, est-ce qu'on ne doit pas passer de la sensibilisation pour la sanction?
Non, moi, je ne suis même pas à ce niveau-là. Vous savez, c'est deux sujets différents que vous venez d'évoquer. Tout d'abord, on parlait de nuisances sonores. Vous savez, moi, je parle toujours de nos réalités. Vous savez, dans l'Afrique préhistorique, dans l'Afrique précambrienne, il n'y avait pas de bar. Il n'y avait pas d'église. Donc, il n'y avait pas ces instruments-là. Vous savez, on disait que vous voulez être idolâtre, vous voulez être spirituel. il y avait, ces choses-là se faisaient peut-être dans la brousse. Personne n'était au courant de rien. À dire, vous posez des questions à des gens spirituels, ils parlaient d'adomé. Donc les trucs spirituels, c'était pas pour tout le monde, en fait. Donc il n'y avait pas de problème. Donc le fait qu'on ait aujourd'hui débat, tout ça, ce sont des choses qui nous ont été imposées. Vous m'acceptez le thème, comme, vous me tolérez le thème comme ça, qui nous ont été imposées. Là, du moins, ce n'est pas de notre habitude. On peut travailler par rapport à ça. Et parce que ce n'est pas dans nos cultures, cette histoire de bari, tout ça, et d'église, c'est après, avec la colonisation. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est quoi? Vous parlez d'animaux. Vous savez, les Africains sont habitués au fait que, au fait d'ouvrir leur maison à ce que les animaux sortent et se baladent dans les rues. C'est nos réalités.
Non, mais ici, nous sommes en
capitale. Oui, ah, non, vous parlez de capital. Vous parlez de capital.
Liberté voilà. De manifestation chez les animaux.
Oui. Une seconde. Vous parlez de capital. Ça nous a été imposé, ces histoires. C'est là où vous voulez en venir au modernisme. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, ce sont nos réalités. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il faille maintenant revoir nos tests pour pouvoir voir exactement comment, quelles sont nos réalités, comment on peut y remédier. Parce que vous savez, un jour, je suis allé dans un pays, pas le Togo, où je me suis baladé dans deux ou trois maisons de certains grands. Elle dit, vous voyez une belle maison comme ça, mais quand vous rentrez, mais c'est-à-dire, il y a des niveaux qui sont vraiment luxueux, mais il y a d'autres niveaux. Vous croirez au champ ou dans la brousse. J'ai constaté ça, vous constatez ça souvent. Mais arrivé au moment où j'ai failli le critiquer, mais je me suis rendu compte que nous sommes en Afrique. Donc il est en Afrique, bien sûr, il se modernise, il se européanise, il s'américanise. Mais il y a la culture africaine en lui, dont il n'arrive pas à se départir. C'est ce que nous constatons dans nos rues. On peut prendre toutes les dispositions possibles, mais on va toujours voir les animaux errer. La meilleure des solutions, à mon sens, je peux me tromper, mais ce qu'il faut aujourd'hui, revoir nos tests. Et on le dit toujours, comment adapter nos tests à nos réalités.
J'aimerais adapter nos tests à nos réalités, mais nos réalités sont bien sûr là. Mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas aussi taper du poing sur la table et sanctionner?
Ouais, il faut sensibiliser avant de sanctionner. Et je pense aussi que la sensibilisation porte ses fruits. Il faut déjà passer par là. Il y a un ministre togolais qui a réussi un peu dans ce domaine, c'est le municipal quand il était à la sécurité. Le port de casque, ça a été très compliqué à faire accepter ça aux Togolais. Même le port de ceinture de sécurité dans les voitures. Mais on a vu plusieurs policiers, gendarmes, assez gentiment dans les rues pendant des mois, interpeller les usagers. Parfois, eux-mêmes, ils prennent le casque qu'ils te portent, ils t'attachent même la ceinture. Et on a vu que après, ça a pris. Aujourd'hui, c'est la phase de la répression. Aujourd'hui, vous n'avez plus de policiers ou de gendarmes vous sensibiliser, mais quand vous êtes au niveau des feux rouges, vous brûlez un feu, vous n'avez pas attaché la ceinture. Sachez qu'on vous interpelle ou vous n'avez pas de casque, on vous interpelle. Et là, aujourd'hui, on ne sensibilise pas. Donc, on peut estimer avoir fait le travail de sensibilisation nécessaire. Et donc, dans ces autres domaines de la vie, je crois qu'il faut faire une grande sensibilisation. Après, personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant ou qu'il méconnaît cette loi. Et quand vous le faites, c'est que vous le faites exprès, vous le faites volontairement, vous violez la loi volontairement. C'est vrai, on dit nul est censé ignorer la loi, mais il y a plusieurs lois que les citoyens ne connaissent pas. C'est le seul législateur, le seul député qui les vote. Parfois, les médias en parlent assez brièvement, telle loi a été votée. Mais dans le fait, quand vous prenez la plupart de nos codes, de nos lois ici, 90% au moins des articles ne sont pas connus de Togolais. Donc il faut quand même que peut-être avec le nouveau régime dans lequel on est, où l'Assemblée et le Sénat ont un plus grand pouvoir, il faut qu'ils investissent beaucoup plus dans la sensibilisation, dans l'éducation des citoyens. Donc pour qu'ils connaissent mieux les lois. Vous savez, dans tous les domaines, pratiquement, c'est codifié, il y a des lois. Mais les gens ne savent pas. Jusqu'au jour où on t'applique la loi, tu te dis, mais ça vient d'où, cette loi-là? On te l'a brandie.
Et pourtant, cette loi existe.
Oui, donc, je crois qu'il faut sanctionner, mais après la sensibilisation. Après, quand on vous sanctionne, on pourrait plus dire, bon, on ne savait pas, pardon, tout ça, non. Donc, je crois qu'avec les expériences qui ont été faites pour le port du casque, pour la ceinture de sécurité, pour les voitures, on peut faire la même chose. Mais Gabin parlait du maire Aboka qui fait quand même un travail assez remarquable. Par rapport à la pollution sonore, il a fait un boulot énorme de sensibilisation. Il a
même par rapport à la divagation des animaux, je pense également qu'il avait fait un travail comme
voilà,
ça.
Voilà, même il y a même une brigade qui est spécialisée avec Madame Lemay aussi, qui sensibilise, qui aide les communes dans ce sens. Mais c'est encore plus compliqué, vous savez, qu'avec les éleveurs, c'est un autre monde aussi. Après, il y a des difficultés. Quand on garde les animaux dans un endroit, est-ce qu'ils pourront vivre? Est-ce qu'ils pourront manger? Est-ce qu'on a appris à ces éleveurs-là à nourrir sur place leur bétail?
Voilà nos réalités.
Ça, c'est une autre paire de manches. Ils peuvent se dire, depuis nos ancêtres, on a toujours promené nos animaux là où il y a des herbes, on reste à côté, on s'assure qu'ils n'aillent pas plus loin que là où ils doivent être.
Oui, mais maintenant, la ville se modernise. Et comme la ville se modernise, est-ce qu'on doit encore permettre cela?
Oui, mais en fait, on a devant un dilemme. Hein. C'est-à-dire, ou bien on veut faire comme les Occidentaux, on te dit, leur mode de vie est le meilleur, on l'adopte. Ou on adopte ce qui est bon et on garde aussi ce que nous avions qui est bien. Donc maintenant, est-ce qu'il faut appliquer systématiquement la loi? Je crois qu'il faut. Déjà, vous avez vu, par exemple, sur la question de transhumance, le nouveau ministre, Yark Damham, essaie de faire un grand boulot pour régler ce problème. Donc, il faut réunir les acteurs, les sensibiliser et ensemble avec eux, trouver une solution. Parce que si on vous dit, ne promenez plus vos animaux, vous allez voir dans quelques mois, il y aura un problème pour que les gens mangent, hein, parce qu'il n'y aura pas de bétail. Les gens vont dire, mais on n'arrive pas à produire parce que nous, on a l'habitude d'aller au niveau des pâturages et tout ça. Donc, il faut réunir les acteurs, discuter avec eux, leur trouver aussi des alternatives, des solutions, leur proposer des choses avant de leur dire « ça, c'est pas bon ». Bon, nous le savons tous. C'est comme il le disait tout à l'heure, quand vous n'êtes pas éleveur, c'est facile pour vous de dire « bon, qu'on interdise tout ça ». Mais le éleveur, lui, se dit « mais nous sommes tous togolais et nous devons mener nos activités ». Vous êtes libre, vous faites ça, nous, nos animaux, on en fait quoi? Donc, il faut quand même discuter. Il y a la loi, mais il faut tenir compte aussi des préoccupations des acteurs. D'accord. Et trouver des solutions. Mais, comme on l'a dit, nos pays se modernisent, nous allons vers un modèle plus universel, plus démocratique, plus respectueux des libertés des uns et des autres. Et donc, il va falloir sensibiliser et trouver des solutions donc, à ce type d'activité.
Merci, Germain. On va aborder un autre sujet. On aborde la politique hein, dans cette émission. Il y a le journal Le Canard Indépendant qui titre à sa une aujourd'hui « Nouvelle constitution, l'analyse de l'ANC qui met en porte-à-faux les fanfarons ». Le journal le dit par rapport à cette sortie de l'ANC, c'était le mercredi dernier. C'est vrai, entre-temps, les uns et les autres parlaient, les contestataires surtout alors de la nouvelle constitution parlaient alors de la procédure par laquelle la nouvelle constitution a été adoptée. Mais maintenant, l'ANC qui rentre alors dans le fond de cette nouvelle constitution, et l'ANC parle des incohérences dans le contenu alors de cette nouvelle constitution. Mais Gabin, déjà vous êtes juriste. Est-ce que vous êtes arrivé à comprendre l'ANC par rapport à ces différentes incohérences dont elle parle?
Oui, je comprends très bien l'ANC. Et moi-même, j'ai eu à le souligner plusieurs fois qu'il y a certains points qu'il faut véritablement corriger dans la nouvelle constitution parce que véritablement, ça n'augure pas hein, une certaine clarté au niveau de la population et surtout par rapport à la protection même du pouvoir aussi, au contrôle du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif. Donc véritablement, il y a des choses véritablement qu'il faut corriger dans cette nouvelle constitution là quand on parle du fait que bon, celui-là qui est le président hein, du Conseil des ministres ne participe pas aux élections, il est juste le président du parti hein, à la majorité à l'Assemblée nationale. national, mais il n'est pas un élu, il n'a pas le mandat véritablement de la population, il a juste le mandat de son parti politique, ce qui veut dire qu'un kidam qui vient de nulle part, devenu président du parti ayant la majorité à l'Assemblée nationale, peut devenir président du Conseil des ministres. Donc, aucun test n'est jamais parfait. Il y aura toujours des choses à corriger et véritablement, il va falloir que le pouvoir et le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, puisque bon, ils ont la majorité, arrivent à prendre en considération ces points-là qu'évoquent les partis politiques, parce que le devoir des partis politiques aussi, c'est d'arriver à mettre a mis quand même les lacunes du pouvoir en place. Donc, moi, je pense qu'il y aura toujours des choses à dire par rapport à la nouvelle constitution. Maintenant, je l'ai déjà dit, aucun test n'est jamais parfait. Donc, il y aura toujours des corrections à faire. On va toujours retoucher le test là. La preuve est que la constitution de 1992 même n'avait pas été mise en œuvre comme ça. Et au fil du temps, il y a toujours des choses qu'on a eu à corriger sur cette constitution-là. Donc, ça sera la même chose. Il y aura toujours des incohérences, des incompréhensions et même parfois des trucs qui ne devaient pas y être. Mais pour moi, je pense qu'on doit aller toujours vers la correction et ce sera au gouvernement et au pouvoir législatif en place de voir ce qu'il faut faire pour que ce test-là véritablement réponde à nos réalités, puisqu'on parle de réalité africaine. Après, je pense que c'est le gouvernement même ou bien le pouvoir en place qui donne même le bâton à l'opposition de lui taper dessus, parce que au prime abord, quand tu parles du fait que cette constitution-là, c'est issu de nos réalités, c'est pour que ça puisse s'adapter à nos réalités et promouvoir la stabilité de notre pays. Et après, tu parles de modèle indien, modèle britannique et italien. Et ensuite, tu parles de modèle canadien. Finalement, on n'arrive pas à se retrouver. Donc, à un moment donné, je pense que c'est le pouvoir lui-même qui donne le bâton à l'opposition de lui taper dessus. Et les juristes au sein de l'ANC ont dû faire un travail remarquable qui peut apporter de l'eau à la construction de l'édifice national.
Oui, Fimé, et vous avez aussi parcouru cette nouvelle constitution, vous l'avez entre les mains même d'ailleurs. Est-ce que vous avez constaté aussi ces incohérences dont parle l'ANC?
Non, vous savez, moi je Germain, non pas Germain, Gabin Diawara a dit que les juristes de l'ANC ont fait un travail remarquable. Moi, je me dis que c'est un travail, bon, ils ont peut-être fait un travail remarquable. Moi, je me dis qu'il était temps. Mais parce que quand vous lisez un peu leur déclaration que j'ai dans ma main, j'ai compris qu'ils ont commencé par parcourir la Constitution. Mais sauf que le travail est insuffisant. Parce que quand vous lisez la Constitution togolaise, 5e République, vous vous rendez compte finalement que le pouvoir n'a pas inventé grand-chose. Le pouvoir juste a pris de Sivanou Sonu Piyo Seka en 1961, la constitution du 9 avril 1961, et le pouvoir a pris aussi la transition dirigée par Kofi Go. Vous savez, j'ai la déclaration ici de l'ANC. L'ANC parle de l'article 50 et, premier point, l'ANC parle de concentration excessive du pouvoir exécutif. Nous sommes en 1958, on a organisé les élections législatives. Qui était le président à l'époque? Peut-être c'était la France qui était le président du Togo. Mais le premier ministre, c'était qui? C'était Sivanou Solimpio. Vous savez, il n'avait même pas été élu. Il était déchu de ses droits civils et politiques. Lorsqu'on a organisé les élections législatives, on l'a sorti de prison et l'Assemblée qui avait été élue l'avait amnistié. On le place à la tête du gouvernement alors qu'il n'avait pas été élu. Donc si on a cette même constitution aujourd'hui, ça veut dire que le pouvoir du Togo a pris ça de là et l'a plaqué. Mais deuxième chose, quand on parle de concentration excessive du pouvoir, vous savez, de 1958 à 1961, Sivanou Solimpio, il était le président du Conseil, le premier ministre, il était le ministre de la Justice, il était le ministre des Finances et il était le ministre des Affaires étrangères. Vous imaginez, le gouvernement, c'est lui qui avait presque tout le gouvernement. Et ici, on parle de concentration excessive du pouvoir. Donc, je continue. Donc, on parle aussi de l'effacement du président de la République. Ici, l'ANC parle du droit de dissolution, du droit de nomination et de révocation du premier ministre. Vous savez, ici, à ce niveau, c'est une particularité togolaise que je suis en train de constater. Au départ, j'avais critiqué ça un peu. Premier point, conteste du Togo. Je pense que ceux-là qui ont initié, qui ont eu cette idée, peut-être ils ont tenu compte de la confiance. Vous imaginez aujourd'hui, on place à la tête du Togo, président de la République, celui-là peut-être qui n'est pas en bon terme avec Fonia Singbe. on le nomme, on le place, on le désigne président de la République. Du jour au lendemain, il se dit, j'ai le droit de dissolution, je peux dissoudre l'Assemblée. Tout d'abord, ça crée une certaine instabilité. C'est ce que nous sommes en train de constater en Italie, en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, le président de la République, du jour au lendemain, il se dit, bon, moi, je suis fatigué de ce gouvernement. Et il dit, je révoque Fonia Singbe. Et ce sera fini pour Fonia Singbe. Hein. Vous imaginez, quand un président de la République dit, je ne veux plus de toi, c'est fini pour lui. Mais là, la deuxième chose, qui est le deuxième point qui n'est pas des moines, vous savez que cela crée une certaine stabilité. Vous êtes président du Conseil. Vous avez le droit de dissolution. Et vous savez que c'est vous qui êtes le patron du parti. Mais si vous dissolvez l'Assemblée, ça vous dit vous partez aussi. Si Fonia Singbe, du jour au lendemain, se dit, je dissous l'Assemblée, ça veut dire, il a ce droit-là, il a ce pouvoir-là, mais il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Il va du jour un an, deux ans après, il dissout l'Assemblée. Il va faire quoi pendant ce moment-là? Ça veut dire qu'il n'a plus de pouvoir. Donc, je pense que ça le protège et ça protège économiquement le pays aussi en termes de stabilité politique. Maintenant, l'ANC parle de quoi? Militarisation du pouvoir. Et il dit que dans la constitution actuelle, on dit le chef, le président du conseil, il est le chef suprême des armées. Quand je suis allé chercher la constitution de Sivanus Olympe du 9 avril 1961, l'article 43 dit le président de la République, il est le commandant suprême des forces des armées. Vous imaginez, le pouvoir du Togo est allé prendre ça dans la constitution de 1961. Donc on n'a rien inventé. Vous comprenez, je continue. L'article 33 dit... Bon, là, c'est pas ici, mais l'article 33, la 35 dit, le président choisit les membres du gouvernement et fixe par décret les pouvoirs qui leur sont attribués. Les ministres sont responsables devant lui, il met fin à leurs fonctions. Vous savez, c'est de la pure dictature. C'est dans la constitution de Sivanus Olympio, où l'ANC dit que les pouvoirs sont concentrés entre les mains de Fonia Singbe. Non, les pouvoirs étaient concentrés entre les mains de Sivanus Olympio. Mais c'est cet homme-là qu'ils adulaient quand on était petit. Pour conclure. Quand on était petit, je sais que je vous fatigue déjà. Quand on était petit, vous savez, il y a un opposant que vous connaissez, vous respectez très bien. Il dit, hein, lorsque Yadema était arrivé au pouvoir, il n'avait aucune notion politique. Mais il a pris tout de Sivanus Olympio. Ses programmes économiques, politiques et tout ça, c'est ce qu'il a commencé par adopter. C'est pour cela qu'au départ, Yadema est arrivé. Il a trouvé assez d'opposants en prison. Il les a libérés. Mais quand Yadema a commencé par faire exiler les gens, c'est parce que Sivanus Olympio aussi en faisait autant. Mais donc, merci, ce oui, pouvoir en réalité n'a rien inventé. Donc, c'est la politique de Sivanus Olympio qui est en train de nous être appliquée.
Merci, Firmin. Oui, Kofi, est-ce que vous avez aussi la même analyse alors des faits?
Pascal, moi, j'ai toujours dit ici, et je vais aussi le dire aujourd'hui, les Togolais éclairés savent que cette nouvelle constitution a été mise en place juste pour permettre à M. Fonia Singbe de rester au pouvoir. Parce que pourquoi est-ce qu'on vide la fonction de président de la République de sa substance et qu'on donne tous les pouvoirs, la quasi-totalité des pouvoirs qui lui étaient dévolus à la fonction de président du Conseil? C'est pour faire en sorte que M. Fonia Singbe étant de facto le leader du parti Unir, majoritaire au Parlement, soit là de façon indéfinie. Jusqu'à ce qu'un autre parti d'opposition ne gagne les élections.
En fait, c'est pas ce qui a été dit.
Pardon?
C'est pas ce qui a été dit quand même.
Ben, il y a une réalité en ce qui a été dit et ce qui est dans la tête de celui-là qui a instauré la constitution. Écoutez, nous savons la position de l'ANC depuis le début jusqu'à maintenant. Si aujourd'hui l'ANC va dans le fond de la constitution pour étudier les articles qui sont là, ça veut dire que nous sommes en train d'avancer. Ce que moi j'aurais voulu, c'est que l'ANC, ou peut-être l'opposition dans toute sa globalité, trouve les moyens de se renaître, de se demander comment allons-nous faire pour faire en sorte que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, nous puissions aussi gagner les élections législatives et obtenir le pouvoir politique. Si après l'obtention du pouvoir, vous vous dites, bon voilà, nous ne voulons pas de cette constitution-là, initier un projet de nouvelle constitution, bon voilà, vous avez le pouvoir. Mais tant que vous n'avez pas le pouvoir et que quelqu'un d'autre ayant le pouvoir et ayant tous les droits de garder le pouvoir, parce que ce n'est pas illégitime pour quelqu'un qui a le pouvoir de chercher à le garder, ce n'est pas non plus illégitime pour quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de chercher à l'avoir. L'UNIR est dans ses droits de garder le pouvoir à vie, l'ANC est aussi dans ses droits de chercher, l'ANC ou l'opposition, de chercher aussi à avoir le pouvoir. Si celui qui est au pouvoir fait en sorte, met des choses en place pour garder le pouvoir, vous aussi faites en sorte d'avoir le pouvoir pour faire ce qui est de droit. Merci.
Merci, Kofi. Oui, Germain, vous, quelle est votre analyse alors de ces faits, surtout alors de cette appréciation de l'ANC par rapport à la nouvelle constitution?
Oui, alors voilà une constitution qui a été promulguée le 6 mai 2024, et pratiquement 10 mois après, l'ANC a eu le temps de lire cette constitution et faire sa proposition. Alors, vous savez, dans le processus d'adoption de cette loi, le président avait demandé une réélecture de la loi et on avait demandé aux Togolais qui avaient des contributions à faire pour améliorer cette loi-là, parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas un grand consensus, que ça a été fait entre les députés. Donc, la présidente de l'Assemblée avait donc demandé, le président avait demandé la réélecture, ce qui a été fait. Donc, pendant cette période où était l'ANC avec ses belles propositions, peut-être, qui auraient pu contribuer à améliorer par endroit ce texte constitutionnel. Je dis peut-être parce que, même en introduisant ce que les remarques que l'ANC vient de fournir, il y aura toujours des remarques à faire sur la Constitution. De par le monde, il n'y a jamais un texte de loi qui est parfait. Tout est perfectible, parce qu'on trouvera toujours des choses. Et j'écoutais avant les sénatoriales un candidat de l'opposition qui disait, à ce sujet, ben, qu'on demande que le président du conseil soit élu. Et il se demandait, est-ce qu'il y a un seul candidat qui peut battre Florian Singbé aux législatives dans sa circonscription à Blita? Vous comprenez? C'est comme si celui qui devenait président du conseil n'a pas la capacité d'être un élu alors qu'il a déjà été un élu à Blita et tout cela. Maintenant, quand on parle de cette constitution a été inspirée du modèle canadien, c'est au niveau de la nomination du président du conseil. Il y a un premier ministre canadien qui vient d'être installé, qui n'est pas un élu, qui a été premier ministre parce que son parti, qui est majoritaire, l'a désigné. Et on dit que ce niveau-là a été inspiré du modèle canadien. Maintenant, quand Gabin parlait d'inspiration, j'étais un peu surpris parce que... Mais en Afrique, on n'invente rien. On n'a même pas créé le régime présidentiel. Tout est... On copie tout de l'Occident. Ceux qui ont écrit ça, depuis le Montesquieu et tout ça, ils sont là et on prend, on essaie d'adopter.
Ils ont mis la base.
Et vous allez retrouver pratiquement les mêmes phrases dans toutes les constitutions du monde. Donc, ça veut dire que on n'invente rien du tout. Maintenant, le Togo a pioché dans plusieurs constitutions de régime parlementaire pour le faire. Maintenant, les propositions de l'ANC, moi, je ne me suis pas trop attardé dessus parce que je pense que ce parti est arrivé un peu en retard. Peut-être qu'il devrait se battre pour remporter les élections, avoir un jour la majorité pour améliorer tous les textes, même au-delà de la Constitution. On a parlé de plusieurs lois ici. Hein, l'ANC pourrait travailler à améliorer toutes ces lois-là. Mais je pense que l'opposition arrive toujours en retard. Et au moment où vous aurez pu arriver avec ça, parce que le chef de l'État a eu quand même pris ses responsabilités pendant le processus d'adoption de la loi en disant, bon, on demande une relecture. Allez consulter des populations, aller consulter toutes les bonnes volontés qui ont des apports. Et l'opposition n'a pas apporté d'apport et n'a pas apporté de contribution, j'allais dire. On a eu le même phénomène sur la loi, sur les manifestations publiques qu'on a appelé pendant longtemps la loi Bodjona. À l'époque, les gens étaient opposés à ce qu'on encadre les manifestations publiques parce qu'ils voulaient marcher et faire tout ce qu'ils voulaient. Mais ils ont dit non, on est contre cette loi parce qu'elle est liberticide. On a dit ok, venez, on va l'améliorer. Et heureusement, à l'époque, il y avait un certain coordonnateur du collectif Souvent le Togo, Maître Ajavand, qui était allé et qui a fait des propositions. Après une loi plus ou moins consensuelle, même encore perfectible, et qui a été même après retouchée, parce qu'on a dû la modifier au moins à deux reprises, pour qu'elle cadre avec aussi les réalités des manifestations. Donc, je pense que l'ANC aurait pu faire... sortir ce travail-là un peu plus tôt, au moment où le chef de l'État avait demandé la réélecture, qu'on aurait vu la réaction de ceux qui était sur ce projet de révision. Maintenant, ça reste de la théorie, parce que même avec ce qu'on va ajouter, un autre aussi va relire cette constitution-là, va sortir encore beaucoup de choses qu'on peut encore améliorer. Vous verrez que c'est pour ça qu'il y a des républiques. Dans des pays même plus démocratiques que le nôtre, on révise,
Merci, Jamais. Oui, Gabin, c'est vrai que, parlant de la contestation alors de cette nouvelle république, on voit des regroupements. Il y a un cadre de réflexion qui a été créé tout récemment. Il y a un autre front, tous pas ma constitution, qu'on connaissait même avant. Et hier, il y a un autre regroupement qui a été mis en place. Et c'est avec 12 partis politiques et organisations de la société civile, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de mouvements ou trop de regroupements finalement pour cette contestation?
Non, tant que l'objectif est commun, moi ça ne me pose pas de problème. Le Togo compte plus de 120 partis politiques, hein. Donc tous ces partis-là ne peuvent pas se regrouper dans un creuset. Il y a des partis d'obédience socialiste, d'autres communistes et tout. Pour mieux se faire entendre, le plus important c'est que tous ces partis-là, ou bien tous ces regroupements aujourd'hui appellent à ce que les populations rallient le mouvement, c'est-à-dire le meeting du 23 mars prochain, c'est-à-dire le dimanche. Donc ça veut dire qu'ils ont pratiquement les mêmes objectifs, sauf qu'au sein de l'opposition aujourd'hui, il y a certains partis qui n'arrivent pas à s'entendre, peut-être sur les modalités, sur les stratégies et tout, parce que parmi les 12 partis politiques qui ont participé à la signature de la charte du nouveau regroupement qui vient d'être créé, il y a des partis qui sont à l'Assemblée nationale, alors que dans l'autre regroupement, il y a des partis qui ont certes gagné aux élections, mais ont refusé de siéger. Donc, alors que ceux-là, ils ont participé aux élections législatives, ils siègent, et au même moment, ils ont participé aux élections sénatoriales. Bon, certains même les taxent de participer à l'implémentation de la 5e République. Donc, pour moi, tant que l'objectif est commun, bon, le plus important est que les gens trouvent la possibilité de pouvoir se réunir autour d'un idéal, moi, ça ne me pose aucun problème.
Kofi, est-ce que pour cette stratégie alors de l'opposition, est-ce que vous trouvez quand même que c'est une stratégie qui aura vraiment de résultats?
Pascal, lorsque vous êtes mordu par un serpent et qu'au lieu de vous faire soigner, vous passez votre temps pour suivre le serpent, pour lui dire que bon, voilà, vous n'aviez pas raison de me mordre, vous m'avez fait du tort, écoutez, vous perdez votre temps pour rien. Aujourd'hui, là où nous sommes en train d'avancer. Le régime en place est en train d'avancer. Est-ce que l'opposition est en train d'avancer ou bien pense à avancer? Il faut qu'on arrête ça. Il faut que, au jour d'aujourd'hui, l'opposition se pose les questions qui s'imposent. Les questions qui lui permettront...
Et quelles sont ces questions qui s'imposent?
Pourquoi est-ce qu'on est opposant? Pourquoi est-ce qu'on a été investi de l'ascension, de l'assentiment plutôt, du mandat populaire? Parce que à un moment donné, il y a une certaine frange de la population qui aimerait que vous gagniez les élections, que vous obteniez le pouvoir politique. Mais si vous êtes là, à tergiverser, quand l'autre est en train d'avancer, comment est-ce que vous arriverez à avoir le pouvoir?
Firmin, vous avez aussi l'impression qu'il y a des tergiversations?
Oui, c'est juste des tergiversations. L'opposition est perdue. L'opposition est perdue, elle est perdue. Vous savez, moi, en 2017, j'ai suivi Maître Joseph Kokoukoufigo, à qui j'envoie un salut très respectueux. Il disait qu'à l'époque, dans les années 90, où il était Premier ministre, qu'il était presque un président de la République, que le statut du président de la République devrait lui être reconnu. Qu'est-ce que je vais essayer de démontrer? Vous savez, quand vous voyez un peu dans le lot de ceux qui manifestent aujourd'hui, vous voyez Mme Madia Magbo, à qui j'envoie mes sincères condoléances par rapport au décès de Pascal Adoko. C'était eux qui étaient les membres du gouvernement à l'époque. Et quand vous interrogez l'histoire, on disait à l'époque que Figo était tout puissant. C'était le régime parlementaire. Et Adema était effacé. Mais ils n'avaient pas contesté ça. Pourquoi Mme Madia Magbo et Kofi, vous n'avez pas contesté ça? Aujourd'hui, c'est presque le même système qu'on leur applique. Et pourquoi ils se fâchent?
D'accord. Par rapport surtout à cette stratégie utilisée par l'opposition, c'est-à-dire on a beaucoup de regroupements aujourd'hui, est-ce que vous trouvez quand même que c'est une stratégie gagnante?
Bon, est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle stratégie? Non, c'est la même chose. On assiste à la même chose depuis une trentaine d'années. Avec pratiquement les mêmes acteurs, il y a eu quelques nouveaux, mais qui sont restés dans la même stratégie. Donc, je pense qu'en fait, l'opposition joue aujourd'hui sa survie. Et après les différentes élections, on assiste à une opposition totalement morte et effacée dans notre pays. Et maintenant, on se dit, il faut peut-être surfer sur quelque chose. Mais là encore, comme je le disais dans le cas de l'ANC, c'est avec beaucoup de retard qu'on conteste aussi aujourd'hui cette constitution, parce que c'est au moment de son élaboration qu'il fallait contester ou voir l'empêcher. Maintenant, elle est déjà en vigueur avec l'installation pratiquement de toutes les institutions. Il ne reste que deux institutions, peut-être trois maximum, pour qu'on soit de plein pied dans ce régime parlementaire. Et aujourd'hui, on veut contester. Bon, on attend de voir. On peut imaginer un peu ce que sera le résultat de toutes ces actions-là, parce qu'on en a un peu l'habitude. Mais après, on ne peut pas aussi leur reprocher de mener des actions, parce qu'il faut exister, il faut faire quelque chose. Mais je pense que ce n'est pas le bon bout. Je pense qu'ils ne tiennent pas le bon bout. Et quand vous voyez un peu dans l'opinion, les gens sont un peu indifférents par rapport à tout ce qui est en train de s'initier. On s'est dit déjà vu, les gens sont un peu fatigués, lassés de tout ça. Peut-être qu'il faut de nouvelles idées, ou à défaut de nouvelles images et figures, j'allais dire, au sein de l'opposition pour essayer de la réveiller, parce qu'on parlait de la possibilité d'une alternance un jour pour que ceux qui contestent aujourd'hui aient la majorité pour faire leur loi, mais avec ce genre de méthode, je ne pense pas que cette alternance-là est proche. Merci. Elle s'éloigne de plus en plus. Je crois qu'il faut revoir aussi bien la méthode que le personnel qui anime cette opposition.
Merci, merci Jamais. Merci à tous. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat. On va maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat et parler surtout, intervenir surtout alors sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. C'est sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM. FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Enfin, bonjour.
Bonjour Basile, comment vous allez?
Oui, c'est bon, évidemment.
D'accord. Allez-y.
Ah, mercredi, jeudi, là, je n'ai rien compris, mais je ne peux pas croire que sciemment qu'on ne m'a pas décroché. Je ne peux même pas croire à ça. Et voilà quoi. Bon, le débat. Ah, je ne sais pas, depuis il y a un certain temps, j'écoute un de vos collègues qui. Inclut les gens qui vont dans tout ce qu'il dit là. C'était bon et on l'a assassiné. Si c'est bon, pourquoi ils sont là? Et pourquoi chaque fois quand il vient, il doit dire que c'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il faisait. Moi, même ici, si je suis né en 72, je n'ai pas vu un truc comme ça, parce que ce n'est pas le moment où moi j'étais né. Mais quand il. C'est comme ça, lui, le nom de quelqu'un qui a fait un très grand boulot. Et aujourd'hui, quand vous êtes là, mais il faut dire ce que vous devez dire. Moi, je ne vois pas qu'il faut mêler le nom de Tivanis Olympia à ce qui se fait chez nous aujourd'hui au Togo, où on ne peut même pas manger une seule fois par jour. Bon, moi, je ne trouve pas l'importance. Hein.
Et bien, Basile, allô, Basile.
Oui.
Oui, mais Firmin a fait la comparaison, c'est parce que nous étions sur le sujet. Et maintenant, moi, je voudrais quand même que vous dites alors ce que vous pensez, votre opinion.
C'est même pas vrai.
D'accord, ok, merci beaucoup. Oui. On reçoit notre auditeur 90 86 35 35 91 36 63 115. Allô?
Oui, allô.
Oui, bonjour, Pélé.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Très bien, je salue le plateau.
Allez-y.
Je pense que en 1961, le peuple a été au référendum. Comme on peut le dire, le peuple a été au référendum. Ça, c'est une valeur. Je pense qu'en 1963, Nicolas Grimsky a été au référendum. En 80, Yadema a été au référendum. En 92, une fois encore, Yadema a été au référendum avec Monseigneur Fodjiro. Je pense que nous voulons que Fonya Sindou aussi aille au référendum pour connaître son poids vrai, le poids réel qui est au référendum. Mais s'il est populaire, pourquoi il ne veut pas voter oui et le non? Mais il n'a qu'à aller au référendum, c'est tout. Vous ne pouvez pas créer une république dans la Casimini et imposer ça à une population. Vous voyez, ce que se passe ici, c'est très sensible, surtout pour les journalistes. Nous avons le quatrième pouvoir, c'est vous qui devez agir. Ce n'est pas le peuple qui dit que le peuple ou bien les partis politiques, tout ça, là, c'est pas ça. Une république ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez, tout ce que j'ai cité là, aussi arrive à un référendum. Maintenant, quand vous parlez, quand M. Filmer parle que l'inspiration de ce que Fonya Sindou a fait de faire, et c'est ça que Sylvain Sorry a fait. C'est ce que ça lui a coûté. C'est gratuit. Vous voyez, toutes ces choses-là, hein, ce n'est pas un journaliste qui peut parler comme ça.
Merci Pélé. Merci Pélé. 90 86 35 35. On donne la parole à une autre personne. Je voudrais quand même que si vous intervenez, parlez-nous des sujets débattus ici au Club de la Presse. Donnez-nous votre point de vue. C'est de ça qu'il s'agit. Allô, monsieur Gado, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, monsieur Gado, bonjour.
Bonjour.
Oui, allez-y.
Bon, c'est bien de comparer. C'est normal. Mais moi, je vais dire qu'en comparant, est-ce qu'ils ont vu un professeur du lycée Akara bourrer les unes, hein, mettre des unes dans son boubou et puis bourrer les unes? C'est ce qu'ils ont oublié de comparer aussi. C'est ça. Dans la Cinquième République, là, est-ce qu'on a écrit dedans que si quelqu'un bourre les unes, on ne va pas les arrêter? L'État n'a rien arrêté personne. Est-ce que c'est normal, ça? Nous sommes dans un État, ça. Moi, je suis sûr que le président Fon ne sera pas président des conseils. Il va refuser. Merci, bonne journée.
Et bonne journée à vous aussi. Bonjour Pascal et le panel sur le plateau. Félicitations pour le travail abattu, la procédure de révision constitutionnelle viciée sans le passage par une constituante inclusive. N'est-elle pas la vraie plaie qui nous gangrène actuellement? Le civisme doit renaître alors que dans notre pays, l'exemple doit venir du sommet vers la base. Nous devons aimer vraiment notre pays et non ce que nous pouvons en tirer comme avantage. C'est Kokou qui nous écrit depuis Avepozo. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
Oui, c'est Nyamavo.
Allez-y.
Je demande aux auditeurs de prendre. De se calmer. Il y a certains journalistes qui parlent pour faire tomber le cœur du peuple dans leur ventre. Mais en voyant la réalité en face. Et la comparaison là est dangereuse parce que c'est pour justifier le pourquoi on a assassiné Giovanni Sodinchio. Donc, il est en train de signer l'acte là. Hein? Si on dit quelque chose que ce n'est pas bien, quelqu'un l'a posé, est-ce que ça peut dire que vous l'avez assassiné? Alors, si c'était bien, laissez-le continuer. Les deux fronts, c'est de ça qu'il s'agit. Trop de gens ne regardent pas la source. Quoi qu'on dise, l'opposition morte, tout ça là, ils sont conscients que c'est la répression, l'embâtiment du peuple, les prisons qui sont ouvertes aux manifestants, qui a recontracté le peuple qui ne sort pas. Le peuple a souffert tout ce régime-là. Il continue de souffrir. Ce n'est pas une retraite. Et je souhaite seulement aux opposants que les deux camps fassent des actions synchronisées. Merci.
Merci, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Bonjour, le plateau. Si le gouvernement voudrait être clair, tout ceci devait faire l'objet de référendum, mais malheureusement, il passe par un raccourci. Or, les raccourcis mènent à perdition et cause du tort aux acteurs. C'est Ibrahim qui nous écrit 90 86 35 35 91 36 ou en 315. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, de votre côté.
Ça va aussi, c'est Dodi depuis Daravé, c'est ça?
moi, merci beaucoup.
D'accord, allez-y.
Bon, je vous remercie. Hein. Mais il faut qu'on soit courtois au Togo. Les choses ne font pas bien. Mais les gens sont là pour défendre le 5e République. Là. On va voir avec ça. Hein? Les gens ont fréquenté, il n'y a pas de l'emploi. Hein? Les villes sont... Les voies sont gâtées, on n'arrange pas. Il n'y a pas d'emploi, la famine partout. On n'arrive pas à manger deux fois par jour. Mais les gens sont là pour protéger la 5e République. On va voir avec ça. Que Dieu les pardonne. Pour que le Togo aille bien. Je remercie les deux groupes qu'on a créés pour l'opposition là. Ils n'ont qu'à aller. Bon vent pour eux. Dieu va les protéger. Merci beaucoup.
Merci aussi à vous pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur en ligne 90-86-35-35. Allô?
Allô.
Oui, bonjour.
C'est Wiyao depuis Nouépé.
Ah, monsieur Wiyao depuis Nouépé. Allez-y, Wiyao.
Ah, je n'ai pas suivi le débat, mais je voulais dire aux auditeurs que même si le président de la République organise même le référendum, quel que soit Alpha, c'est oui qui doit remporter. Ils peuvent tout faire. C'est oui qui doit remporter. Donc, je ne sais pas pourquoi vous, les hommes disent qu'on a carré ce référendum. Allô, monsieur, on va faire le référendum. C'est tout le pays. C'est tout le pays, partout, on doit voter comme une élection présidentielle, quel que soit Alpha Fort, toujours président.
Monsieur Yao, allô?
Oui, parlez.
Oui, mais quand vous dites que, déjà, quand on fera le référendum, que c'est lui qui va remporter, vous affirmez cela, et déjà, vous êtes dans le secret de Dieu?
Non, je te dis que c'est lui qui doit remporter. Moi, je te dis, oh, si vous voulez, on va organiser, vous allez voir.
D'accord,
c'est lui qui va remporter.
D'accord, merci, pour votre intervention. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce vendredi. Bonjour Pascal. La mise en sonore des bars, des églises et d'autres structures ne peut jamais s'arrêter puisque nos autorités ont créé des bars et des églises qui trompent qui. C'est Tira Sekoku qui nous écrit depuis Adido Gomé. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Gabin, vous avez écouté les uns les autres. Si vous voulez vous prononcer alors sur un sujet ou vous avez peut-être une intervention qui vous a touché.
Oui, bon, Monsieur Wiyao, son intervention, j'aimerais lui dire de calmer un peu son ardeur. Nous sommes dans une république et personne ne connaît l'issue d'une élection avant la proclamation des résultats. Donc, à un moment donné, il faut être calme et puis suivre les choses de bout en bout. Premièrement, il n'a pas suivi l'émission. Il vient comme ça, il parle des sujets dont on n'a même pas débattu ici. On ne fait pas du militantisme dans cette émission. On parle de la République, on fait des débats. Bon, il peut venir et participer au débat, mais venir dire des choses qui ne tiennent pas la route, fort toujours au pouvoir. On n'est pas autant du RPT, on n'est pas autant du parti unique. Il y a le pluralisme aujourd'hui et tout leader peut venir au pouvoir à tout moment. Donc, c'est ce que nous prônons dans cette émission. Il va falloir, c'est son opinion, certes, mais sur la place publique, il va falloir qu'il garde un peu ses ardeurs pour lui-même.
D'accord. Kofi?
Merci Pascal. Bon, j'aimerais inviter le pouvoir à faire un minimum de bonne foi, à laisser l'opposition exercer, à laisser l'opposition faire ce qu'elle entend faire pour pouvoir aussi espérer avoir le pouvoir politique. Si c'est au niveau des meetings politiques, au niveau des marches, c'est vrai qu'il y a la loi, qu'il faut la respecter, mais qu'on donne un minimum de liberté à l'opposition. On nous a promis dans cette nouvelle constitution qu'on aura plus de liberté, plus de démocratie. Il faut que le pouvoir ouvre un peu le jeu. Nous savons qu'elle ne peut pas se laisser prendre le pouvoir comme ça, mais qu'elle ouvre un peu le jeu si elle est de bonne foi, si elle est sûre d'elle-même, si elle est sûre que le fait qu'elle garde le pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle a véritablement l'assentiment du peuple, qu'elle laisse le jeu ouvert, qu'elle ne change pas les règles du jeu en plein match, et on verra dans quelques années si elle sera toujours là.
Merci Kofi. Oui, Firmin.
Que Dieu bénisse le Togo.
C'est ça votre message.
Ouais, exactement.
Merci et que Dieu vous bénisse aussi.
Amen.
Germain.
Moi, je pense que le régime parlementaire peut être une opportunité pour le Togo, parce que on l'a essayé peut-être aux premières heures des indépendances, mais après on s'est retrouvé avec un régime ou des régimes de type présidentialiste. Et je crois que ça peut être une grande opportunité. Et donc aujourd'hui, que les institutions se mettent en place, que chaque acteur puisse jouer son rôle. Il y a un rôle pour l'opposition dans un régime parlementaire. Peut-être qu'il va falloir qu'on en parle un peu plus. Et tout va se jouer énormément au niveau de l'Assemblée nationale, parce que ceux qui sont dans les rues et sur les médias feraient mieux de retrouver leur place au sein de l'hémicycle. On peut vraiment porter les grands débats là-bas et faire entendre leur voix pour que les populations aussi écoutent. Nous aussi, la presse, on a un rôle à jouer. Je pense qu'on ne va pas exercer comme on exerçait dans l'ancien régime, parce que beaucoup de choses se passent. Et que les citoyens aussi, lambda, soient plus regardants sur la façon dont le pays est dirigé, et qu'ils jouent leur partition, que la société civile aussi joue ses partitions. J'espère qu'ensemble, on pourra bâtir un renouveau démocratique qui va être porteur de développement, de beaucoup plus de développement pour notre pays, parce qu'il y a un pays africain dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'île Maurice, qui est le seul pays francophone à avoir un régime parlementaire. Et je vous dis, sur le plan économique, ce pays-là est toujours premier dans les classements. Voilà, donc il y a beaucoup de bonnes choses qui se font là-bas. Je pense que le Togo, s'il s'engage réellement dans ce régime et que tous les Togolais s'y mettent, on pourra faire aussi bien ou peut-être mieux, comme l'île Maurice qui est citée comme exemple sur plusieurs plans en ce qui concerne la bonne gouvernance et même la santé démocratique Afrique.
Merci beaucoup, Jamais Pouli. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'être passé dans cette émission, puisque nous sommes à la fin, bien sûr, de cette émission. Merci Gabé Adjaro, juriste et analyste politique. Merci d'être passé dans cette émission. Kofi Anani, merci aussi d'être passé dans cette émission, analyste politique également. Merci à Firmin Teko Agbo d'être passé dans cette émission. Firmin, vous êtes journaliste, chroniqueur et chroniqueur politique surtout. Merci d'être passé et dans cette émission.
Merci.
Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Et nous sommes à la fin. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end surtout. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.